Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour Ariane.
Bonjour Myriam.
Merci de venir ce matin converser avec moi malgré votre actualité très chargée. Mais reprenons ici quelques lignes de votre bio. Donc ravie de vous savoir architecte et ingénieur avec un E. Vous avez assez rapidement orienté votre carrière vers les métiers de l'urbanisme. Est-ce à dire que vous vous sentiez un peu à l'étroit dans le métier d'architecte ?
Non, pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai choisi de compléter ma formation d'ingénieur par une formation d'architecte. Donc, j'ai fait les deux en même temps. Voilà. Donc, il n'y a pas de l'un contre l'autre. L'idée était vraiment de pouvoir avoir une double culture pour pouvoir parler tant avec les maîtres d'œuvre qu'avec les maîtres d'ouvrage et les élus. Donc, j'ai pas commencé par l'un puis par l'autre, j'ai fait les deux en même temps.
Parfait. Donc, vous saviez d'ores et déjà que vous ne souhaitiez pas être maître d'œuvre architecte, tout simplement.
Absolument. J'ai vraiment décidé de rentrer dans le métier de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire en prenant immédiatement conscience du fait qu'il y avait besoin d'un dialogue entre les différents métiers. Et la formation de l'ENTPE permettant le double cursus, c'était pour cette raison que j'ai choisi cette école.
Donc vous avez commencé à Lyon, à l'époque où la ville commençait tout juste un vaste chantier de transformation. Qu'en avez-vous tiré ? Qu'en avez-vous appris ?
Alors j'ai commencé effectivement à Lyon, à la fois pour mes études, mais aussi pour exercer. Et j'ai travaillé pour le Grand Lyon à une période où le Grand Lyon était déjà intervenu dans un certain nombre de quartiers d'habitat social de la périphérie lyonnaise et était déjà en train d'en tirer les évaluations de ses premières interventions. Cette première expérience, elle a absolument conditionné le reste de ma carrière parce que le Grand Lyon est une agglomération très structurée qui a le mérite aussi d'évaluer sa propre politique publique et qui, dès cette période-là, avait une philosophie d'intervention qui était très forte avec des interventions dans les quartiers comme la Duchère, les Minguettes, Vaux-en-Velin. Et la volonté de trouver dans ces quartiers-là et dans ces aménagements la même qualité d'espace public qu'on pouvait trouver rue de la République. Donc une identité d'agglomération en train de se construire. Et puis une politique d'évaluation qui était nourrie par des études sociologiques très très riche et très enrichissante, permettant de mesurer de manière assez palpable l'évolution de la vie des habitants dans ces quartiers-là. Et c'est très amusant d'ailleurs, puisque un des critères d'évaluation était le retour des femmes sur l'espace public.
Ah, grande question et tout à fait d'actualité. Donc effectivement, Lyon, ville ouverte, avec cette façon de faire de l'aménagement, relayée par des métiers autres que les métiers habituels. Donc vous avez aussi une expérience dans des zones d'activité à Lyon, pas seulement sur des zones de logement et de reconfiguration de quartier. Puis un départ vers Cergy-Pontoise, où vous avez œuvré en tant que directrice de l'urbanisme et du développement économique. Ces nouvelles responsabilités, qu'en avez-vous, qu'avez-vous appris ? Et en quoi cette nouvelle échelle, plus proche de Paris, sur des enjeux un petit peu différents, la ville nouvelle est évidemment un autre territoire d'expérimentation, comment se fait là aussi l'accroche avec le territoire, hein ?
Ce qui était vraiment frappant, c'est que arrivant dans les années 98-2000 sur Cergy-Pontoise, c'était une période où la ville nouvelle était en terminaison de son statut d'exception. Mmh. Et c'est déjà une ville mature à cette époque-là. Une ville mature avec 70% de logement social à l'époque sur la ville de Cergy. Des quartiers qui avaient été pensés de manière très généreuse avec des espaces extérieurs et des espaces publics surabondants et des espaces privatifs quasi absents. Structurés généralement autour de leur groupe scolaire, hein, qui était vraiment le lieu de la sociabilité des quartiers. Donc le sens de mon intervention auprès de Dominique Lefebvre visait à poser vraiment une vision à moyen terme pour la ville, sur les trois grands quartiers structurants de la ville, mais aussi de travailler sur la manière dont on peut retourner ces quartiers vers l'extérieur, dont on peut travailler le rapport à la voiture pour en réduire les impacts et amener les habitants de ces quartiers-là à s'approprier la manière dont leur environnement va évoluer. Bon, par parlait déjà, hein, de concertation, de dialogue participatif, et puis des enjeux de centralité. Sergy Pontoise est structuré autour de sa ligne de RER, donc avec trois grands quartiers qui sont autant de centralités dissociées les unes des autres.
Très dissociées. Même encore maintenant, on a du mal à regarder cette ville comme une ville entière et avec du lien entre les quartiers. On sent encore quand même la prégnance de la voiture et pas tout à fait une vraie ville.
C'est un des enjeux, mais pas seulement sur ce territoire, hein, qui est l'enjeu de la reconquête des espaces qui ont été dévolus à la voiture à une période où la voiture perd de sa présence sur l'espace extérieur. Comment on travaille l'élasticité de ces espaces pour les faire muter en autre chose? Toutes les situations urbaines ne sont pas semblables. Certaines offrent cette capacité, mais même à reconstruire de nouveaux immeubles. D'autres doivent être convertis sur des usages peut-être plus privatifs. Voilà. Mais le sujet de la manière dont la ville n'est pas une structure figée, mais doit accepter d'évoluer au cours du temps parce que les modes de vie évoluent. Et donc la ville est vraiment un tissu vivant sur lequel il faut qu'on accepte de réintervenir régulièrement.
Bon, je vous sens passionnée et effectivement cette réflexion constante sur la ville et évidemment les habitants qui la font. Vous l'avez mis après au service de SEM Paris Centre, issu évidemment de SEMA 15 et SEM Paris Seine. Vous n'y êtes pas resté très longtemps puisque vous êtes assez rapidement allé vers la FTRP. SEMA 15, c'est quand même un quartier vraiment parisien pour le coup, avec évidemment une expérience formidable qui est la restructuration de Beaugrenelle, de la Dalle et ce rapport, je dirais, un petit peu nouveau avec le nouveau centre commercial de Beaugrenelle. Maintenant, quand vous passez devant, vous êtes fiers de ce que vous avez pu, je dirais, aider à votre participation en tout cas sur ce projet?
Oui, c'est vraiment une expérience absolument inouïe. J'y suis quand même restée assez longtemps puisque j'ai œuvré pendant 11 ans à l'intérieur de la SEM Paris Seine. Et j'ai envie de dire cette étape, c'est un temps de maturation absolument nécessaire pour des projets de cette ampleur. On est vraiment là pour le coup sur une reconquête et une transformation profonde de la ville sur elle-même, avec un quartier qui était quand même globalement un peu en désamour des Parisiens et qui aujourd'hui revient comme un spot,
hein, ah oui, tout à fait.
Et une entrée du 15e, dont le 15e, je crois, peut être fier, avec tout ce qui ne se voit pas quand on passe à pied ou en voiture, c'est-à-dire la reconquête de la dalle en elle-même sur laquelle le centre s'ouvre et qui, par ce fait, retrouve une vie, une sociabilité. Il y a des jardins, il y a tout un parcours de jardins. C'est d'une immense qualité. Donc, c'est effectivement une expérience très enrichissante et absolument amusante.
Oui, mais donc, vous pouvez vraiment être fière parce que c'est, comme vous l'évoquez, ça a reconfiguré l'entrée du 15e. Et aujourd'hui, on ne dit plus que le 15e est même pas un quartier de Paris. C'est redevenu un quartier de Paris. Et c'est vraiment une très bonne expérience. Vous travaillez depuis 2 ans et demi à la FTRP, qui maintenant, évidemment, est devenue Grand Paris Aménagement. Vous êtes DGA Aménagement. Vous le relayez et développez l'évolution de Grand Paris Aménagement. Pourriez-vous nous exposer les nouveaux enjeux et, évidemment, votre avenir, l'avenir de GPA dans les quelques mois à venir, hein?
Alors, il y a effectivement quelques actualités dans les toutes prochaine semaine. Grand Paris Aménagement va au 1er janvier 2017 fusionner avec l'EPA Plaine de France et organiser au cours de l'année 2017 une fédération avec l'EPA Orsa. Donc c'est un dispositif qui va vraiment donner à cette structure une assise au service des territoires. Donc notre organisation à cette occasion évolue avec 5 directions territoriales qui couvrent l'ensemble de l'Île-de-France et qui sont incarnées par des directeurs territoriaux qui sont vraiment en accroche avec les territoires qui leur sont confiés, qui ont en responsabilité directe les opérationnels qui interviennent sur ces projets et qui sont les interlocuteurs naturel des élus parce que il leur est vraiment confié la connaissance des territoires, de vraiment mailler et d'être à l'intérieur de ces territoires. Est également créée une direction de l'ingénierie stratégique et des études urbaines qui est la pépinière, la ruche de notre organisation à l'intérieur de laquelle se trouvent à la fois les expertises métiers mais aussi la réflexion et
l'esprit start-up.
Oui, tout à fait. Innovant. L'innovation, absolument. L'innovation qu'on va ensuite venir implémenter dans les projets se trouve dans cette direction et c'est également également cette direction qui est pourvoyeuse d'études, qu'il s'agisse de clients internes ou de clients externes. Donc on a vraiment cette direction matière grise au service des territoires et une organisation qui est structurée avec 5 grandes directions territoriales qui couvrent le territoire. Parce que moi je crois beaucoup à l'ancrage local de notre métier. Et le métier que nous faisons est un métier au service des habitants et des élus qui les incarnent. Et la proximité territoriale, le lien avec la réalité territoriale, c'est ce qui enrichit nos projets et ce qui nous donne une légitimité. Donc c'est très important que les directeurs territoriaux soient vraiment les patrons des territoires.
Je sens une vraie énergie et surtout une transformation drastique par rapport à ce qu'on a connu de la FTRP. Et je trouve que c'est vraiment une nouvelle dynamique que vous insufflez là, évidemment, avec toute votre équipe. Et je sais aussi que votre déménagement prochain dans d'autres locaux va sûrement participer à cette nouvelle énergie. Je retiens effectivement, et peut-être que nous en reparlerons une autre fois, cette idée de start-up au sein de Grand Paris Aménagement, ce savoir-faire différent que vous comptez mettre en place et les directeurs territoriaux au plus près des collectivités. Avez-vous d'autres points que vous souhaitez aborder, Ariane, aujourd'hui ?
Oui, quelques chiffres quand même. Grand Paris Aménagement au 1er janvier 2017, c'est 100 opérations d'aménagement qui couvrent l'ensemble de l'Île-de-France pour un chiffre d'affaires à terminaison de 4 milliards d'euros. Donc c'est un opérateur qui compte de référence, un opérateur de l'État au service des territoires et des collectivités, qu'il s'agisse d'opérations qui sont réalisées en traité de concession pour les collectivités ou en initiative, l'une comme l'autre des méthodes d'intervention sont faites au service des territoires et des élus et des projets qu'ils portent. Effectivement, nos équipes ont aujourd'hui une actualité chargée puisque dans le même temps que, comme je vous l'indiquais, nous organisons cette réunion avec deux autres établissements publics, nous installons l'ensemble des équipes dans une nouvelle maison. Et je crois que c'est très symbolique et c'est très fort de dire qu'on emménage tous ensemble dans des nouveaux locaux qui sont situés rue de Cambrai dans le 19e arrondissement de Paris et donc qui va donner une nouvelle impulsion à notre établissement. Et puis, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dans le même temps que nous structurons comme ça l'établissement et qu'il croît avec l'adjonction et l'arrivée de nouveaux collaborateurs, les projets pendant ce temps-là, eux, continuent d'avancer et d'avancer avec un rythme qui est vraiment soutenu.
Merci Ariane, je suis désolée de vous interrompre, mais nous viendrons dans votre maison, justement nouvelle maison, pour vous interviewer à nouveau et regarder avec vos équipes le développement de cette nouvelle phase de Grand Paris Aménagement. Merci à vous et à bientôt sur nos antennes.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.